c'est sûr que Maître Renard, par l'odeur alléchée,
lui aurait rendu cet hommage.
L'écoute de RFI, il est 6h ici à Paris, 7h à Kiev. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Marion Kazanov. Bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Et à la une, l'Ukraine et ses drones qui essoufflent la Russie.
Avec des frappes quotidiennes sur les infrastructures, les dépôts de pétrole, les centres de communication de l'armée. Et cela a un impact sur l'effort de guerre russe. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans le sud du Liban, il affirme que son armée restera sur place tant que le Hezbollah sera présent. Benjamin Netanyahou est son parti favori pour les législatives d'octobre, mais une personnalité gagne en popularité, Gadi Eisenkot du parti Yashar, son portrait dans ce journal. Des milliers de Sud-Africains manifestent pour réclamer le départ des sans-papiers. Les manifestations d'hier interviennent après des mois de violences xénophobes. En France, les étudiants non européens et non boursiers privés d'une aide financière. Et puis en football, les splendeurs et les misères du mondial avec l'élimination des Ivoiriens, la qualification des Français, les Mexicains, eux, sont tout proches. L'Ukraine accroît la pression sur la Russie. Kiev réussit largement à frapper les infrastructures russes. Hier, l'armée ukrainienne a visé un lieu stratégique, le centre de communication satellite de Doubna, en périphérie de Moscou. Il y a quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky disait avoir approuvé une campagne de frappe sur ces infrastructures et l'impact de ces frappes est déjà visible, Franck Alexandre.
4 centres de communication par satellite ont déjà été visés et celui de Doubna, près de Moscou, a subi 2 attaques en 7 jours. Des frappes qui fragilisent un peu plus les communications des armées russes, déjà privées du réseau Starlink depuis le début de l'année. Dotées d'une couche d'intelligence artificielle pour la navigation, les rendant moins sensibles au brouillage, les drones d'attaque ukrainiens frappent désormais avec succès dans la profondeur du territoire russe, ciblant l'industrie de défense jusque dans l'Oural, la logistique militaire sur l'arrière du front et les raffineries. La flotte fantôme, soit près de 600 navires permettant à Moscou de contourner les sanctions, se trouve elle aussi sous pression. La France a déjà arraisonné 5 de ses pétroliers et l'inquiétude russe est palpable. Ainsi, de récentes photos publiées sur X documente l'installation de mitrailleuses sur un méthanier russe en mer Baltique, premier pas peut-être d'une militarisation de la Dark Fleet.
La Dark Fleet, donc cette flotte fantôme russe, est sur le front. Des combats intenses sont signalés dans l'Est, dans l'oblast de Donetsk, à près de Pokrovsk. L'Ukraine dit avoir libéré près de 670 km² de territoire depuis le début de l'année. Au Moyen-Orient, un retour au calme après des échanges de frappes qui ont menacé de faire voler en éclats la trêve entre l'Iran et les États-Unis. Les deux pays envoient cette semaine une délégation au Qatar pour des discussions indirectes à Doha. Le négociateur en chef iranien, lui, affirme qu'il ne reprendra pas les pourparlers tant que les conditions du protocole d'accord ne seront pas respectées. Ce protocole, signé mi-juin, vise à mettre fin à la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Le Liban, où l'armée israélienne reste mobilisée dans le sud. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'y est rendu hier. Il a affirmé que son armée resterait sur place tant que le Hezbollah serait présent et serait une menace. Benjamin Netanyahou, dont le parti le Likoud est en tête dans les sondages pour les prochaines législatives, ce sera en octobre, mais il est talonné par le parti Yashar, parti, ça veut dire droit en hébreu. Gadi Eisenkot, le chef de ce parti, a lancé hier soir sa campagne et il pourrait bien continuer à gagner du terrain. Son portrait avec Frédéric Misselin.
Sa mère voulait qu'il soit rabbin, il est devenu chef d'état-major de l'armée israélienne. Gadi Eisenkot se présente aujourd'hui comme un citoyen ordinaire. Fils d'immigrants marocains, ce militaire de 66 ans apparaît comme l'homme qui peut battre Benjamin Netanyahou. Raphaël, un de ses partisans, loue son intégrité, même s'il manque un peu d'éclat lors de ses meetings politiques.
Il est droit, il a perdu son fils, qui était en service militaire à Gaza. On ne peut pas laisser la situation comme elle est maintenant.
Gadi Eisenkot aime rappeler que son parti n'est ni à droite, ni à gauche. Il ratisse large dans une société fatiguée par près de 3 ans de guerre. Ses détracteurs assurent qu'il ne parle pas anglais. Aucune importance, disent les militants. L'homme suscite avant tout l'espoir d'un changement. C'est un militaire rassurant pour ses soutiens. Il a servi dans une unité de combat d'infanterie, la brigade Golani. Il est aussi à l'origine de la doctrine d'Aïe, qui prône un usage extrême de la force comme outil de dissuasion. C'est finalement son manque de charisme qui pourrait bien être son principal atout lors de la prochaine élection. Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
Aux États-Unis, la Cour suprême inflige un nouveau revers à Donald Trump. La plus haute juridiction du pays, à majorité conservatrice, a rejeté un décret du président, décret qui supprimait le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière. Mais la Cour suprême a donc suivi de nombreuses autres juridictions qui affirmaient que ce décret n'était pas constitutionnel. En février déjà, elle avait invalidé les droits de douane de Donald Trump et lundi, elle a bloqué le limogeage de la gouverneure de la Banque centrale. En revanche, la Cour suprême suit Donald Trump sur 2 autres décisions. Elle valide l'exclusion des athlètes transgenres des compétitions féminines. Elle supprime aussi le plafonnement des financements de campagne électorale. C'est une décision que réclamaient les Républicains. Les États-Unis toujours qui expulsent des migrants vers un pays du Pacifique. Et c'est une première. Les Palaos ont accueilli il y a quelques heures un premier migrant. C'est dans le cadre d'un accord passé entre les deux pays et qui s'inscrit dans la continuité de la politique anti-immigration de l'administration Trump. En Afrique du Sud, les questions migratoires au cœur des débats à l'approche d'élections locales. Hier, des manifestations anti-immigration ont eu lieu dans plusieurs villes du pays et après des mois de violences xénophobes qui ont conduit au départ de 25 000 personnes. Et un mouvement en particulier a pris de l'ampleur, March and March. Il fait pression sur le gouvernement pour qu'il serre la vis sur les questions migratoires, Valentin Hugues.
L'organisation March and March a fait une entrée fulgurante sur la scène médiatique sud-africaine en seulement quelques mois. Et si le mouvement se dit uniquement citoyen, lors de la manifestation à Durban, sa chef de file Jacinta Ngobeni-Zuma a remercié certains partis politiques.
Si l'on veut changer certaines lois, nous avons besoin du soutien des membres du Parlement. Nous tenons donc à remercier Action SA qui nous a soutenus, ainsi que le parti MK.
Le MK Party, fondé par l'ancien président Jacob Zuma, est l'un des seuls à avoir ouvertement apporté son soutien à March and March. À l'approche des élections municipales et alors que l'ANC perd de l'influence dans le pays, la question migratoire est devenue un argument de campagne, notamment pour le MK, et Lucky, adhérent croisé dans le cortège, ne s'en cache pas.
Ces gens se battent pour leur pays. C'est pour cette raison que des membres du MK sont ici. Il est nécessaire de leur montrer notre soutien pour gagner leur adhésion, car le MK, pour l'instant, est encore un petit parti et souhaite obtenir le soutien de la population.
Le média d'investigation Amabungane révèle que l'entourage de March and March entretient des liens aussi solides que discrets avec celui de l'ancien président Jacob Zuma. Valentin Hugues, Durban, RFI.
RFI 6h08 à Paris. En France, la fin d'une aide financière pour certains étudiants. Les étudiants non européens et non boursiers ne peuvent plus toucher les APL, les aides au logement. La fin de ces APL avait été votée dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2026. Et les associations craignent que cette mesure ne précarise encore plus ces étudiants étrangers déjà fragilisés par la hausse des frais de scolarité à l'université. Éléonore Schmitt de la Fondation pour le logement redoute le pire à la rentrée de septembre.
Le droit de douane.
Ce qu'on voit et ce sur quoi on a alerté dès maintenant, c'est des cas de sans-abrisme qui vont se multiplier chez les étudiants étrangers. C'est des étudiants étrangers aussi qui pourront être davantage victimes encore des marchands de sommeil, par exemple, avec des appartements qui vont être loués alors qu'ils sont complètement indignes, des loyers qui ne pourront pas être payés tout simplement tous les mois, avec donc des risques d'expulsion derrière, parce que quand on n'a pas d'aide à côté comme des APL pour payer son loyer, qu'en plus on doit se nourrir à côté, qu'en plus on doit se chauffer, forcément il y a des choix qui sont faits à un moment et des choix qui sont faits à contre-cœur. Donc il va y avoir des effets économiques, sociaux, en termes de santé sur les étudiants qui sont concernés, qui vont être vraiment dramatiques. on voit que malgré nos alertes, le gouvernement n'a pas voulu prendre la mesure des conséquences que cette politique allait avoir. Une politique qui, on le rappelle, est une politique, selon nous, de préférence nationale.
Éléonore Schmitt de la Fondation pour le logement, propos recueillis par Baptiste Coulon. On revient plus largement sur la suppression de ces APL ce matin dans le dossier du journal de 9h, heure de Paris. La France qui suspend aujourd'hui sa taxe sur les petits colis. En mars, elle avait imposé une taxe pour les articles achetés sur les plateformes de commerce en ligne non européennes. Une mesure facilement contournable. Alors la France préfère s'aligner à partir d'aujourd'hui sur un droit de douane européen. Il vient d'entrer en vigueur et il vise les mêmes plateformes. Mais là aussi, ce droit de douane pourrait être facilement contourné, notamment via des immenses entrepôts construits à l'intérieur du marché unique. C'est ce qu'explique Jean-Guilhem Daré, délégué général du syndicat des indépendants et des TPE, les très petites entreprises.
Le droit de douane sur les petits colis suppose l'importation de petits colis. Or, les plateformes chinoises, que ce soit Chine ou Temu, se sont déjà organisées pour avoir des entrepôts, des immenses entrepôts sur le sol européen, notamment en Pologne. Donc, en définitive, cette taxe sur les petits colis ne sera plus applicable parce que les colis vont arriver par conteneur en Europe et ensuite être diffusés sur l'ensemble du territoire européen. Donc, en fait, ça va être une ligne Maginot par rapport aux produits chinois qui peuvent envahir nos territoires. Ces plateformes devront payer un droit de douane, naturellement, mais sur des volumes de produits qui seront nettement inférieurs au coût que représente 3 euros par colis directement adressé depuis la Chine.
Jean-Guilhem Daré, délégué général du syndicat des indépendants et des TPE avec Agnieszka Kumor. Les éléphants rentrent à Abidjan. La Côte d'Ivoire dit adieu au mondial de foot après sa défaite 2-1 face à la Norvège. Ils y ont cru jusqu'au bout. Amad Diallo avait égalisé à l'heure de jeu avant le but décisif d'Erling Haaland à la 86e minute. Les Ivoiriens se contentent donc d'une première participation à un deuxième tour de Coupe du Monde. Mais l'attaquant Oumar Diakité avait bien plus d'ambition.
Globalement, on n'a pas fait un mauvais match. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Après, les Norvégiens ont su jouer le coup à fond. Je pense que ça nous a fait défaut à la fin du match. Je pense qu'ils ont beaucoup mieux maîtrisé leur coup. Et nous, on a subi ça, quoi. Beaucoup de déceptions. On était tous déçus parce qu'on ne voulait pas s'arrêter là. On voulait aller un peu plus loin. On voulait aller le plus loin possible. Voilà, on est une équipe jeune avec beaucoup d'ambition. Beaucoup de personnes veulent produire le meilleur football, donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'équipe nationale. Donc, naturellement, on était déçus. Mais en même temps, j'ai confiance en cette équipe-là. Je sais qu'on va revenir, quoi.
L'attaquant ivoirien Oumar Diakité avec Eric Mamrut à Dallas. La Norvège donc affrontera le Brésil dimanche. La France, elle, sera contre le Paraguay hein, en 8e après sa large victoire 3-0 contre la Suède. Notamment un doublé de Kylian Mbappé et un autre but de Bradley Barcola. Le Mexique vient aussi de se qualifier en battant l'Équateur 2-0. Et les 16e de finale se poursuivent ce soir avec Angleterre, RDC à 16h temps universel, Belgique, Sénégal à 20h TU. Vous suivrez ces deux matchs en direct et en intégralité sur nos antennes africaines. Le dernier match de la journée à minuit temps universel opposera les États-Unis à la Bosnie. RFI, bientôt 6h13 à Paris. On poursuit ensemble notre tour du monde de l'actualité.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
À Hébron, des tensions grandissantes autour d'un lieu de prière partagé par les trois monothéismes et symbole de la mainmise grandissante d'Israël sur la plus grande ville de Cisjordanie occupée. La situation des droits humains se dégrade en Corée du Nord. L'ONU alerte sur la peine de mort si aucun chiffre n'existe. On sait que les exécutions publiques ont repris et que de plus en plus de crimes sont passibles de la peine de mort. Notre invité culture sort aujourd'hui un film d'animation dans les salles françaises. La réalisatrice Phuong Mai Nguyen sort In Waves, inspiré d'un roman graphique bouleversant. À suivre également le conseil santé, le choix musical de nos programmateurs, puis le retour de l'actualité africaine. Le chef de l'ONU dénonce l'expansion et l'accélération implacable des colonies israéliennes en Cisjordanie. Une condamnation en début de semaine d'Antonio Guterres à l'occasion de son rapport trimestriel. Peu à peu, Israël renforce son contrôle sur la Cisjordanie occupée et les regards se tournent en ce moment surtout vers un lieu de culte à Hébron. Les uns l'appellent le caveau des patriarches, les autres la mosquée Ibrahim. Selon les trois religions monothéistes, ce lieu renferme le tombeau de personnages bibliques comme comme Abraham. Le sanctuaire se trouve dans une zone de contrôle militaire israélien, la zone H2 définie par les accords d'Oslo en 1997. 200 familles de colons israéliens vivent là, aux côtés de 40 000 Palestiniens. Ces derniers ne peuvent pas circuler librement en raison de barrages, et aujourd'hui s'ajoute une polémique autour de travaux d'entretien, et l'enjeu est politique. Reportage sur place de Frédéric Misselin.
Devant l'entrée du sanctuaire côté juif, l'accès se fait sous escorte militaire car les Israéliens ont commencé les travaux il y a 10 jours. Il faut refaire le toit, explique Aaron Marouani, l'adjoint au maire de la colonie voisine d'Hébron, Kiryat Arba.
C'est l'endroit où tout a commencé pour nous et c'est un lieu de prière aujourd'hui pour les Israéliens, l'autre moitié pour les musulmans. La chambre principale du côté israélien est découverte. C'est-à-dire quand les gens font une prière pendant l'hiver, ils sont sous la pluie. C'est tout simplement un besoin basique d'avoir un toit. C'est devenu un drame mondial, mais il n'y a rien de spécial.
En vertu du...
Capitale. Une chanson plaît surtout en fonction de sa musique.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4 dans le sud de l'Eure 95.9.
Par le truchement de la musique, on apporte dans l'oreille des gens ce qui habituellement ne devrait pas y être admis, n'est-ce pas? C'est un truc, c'est ce qu'on appelle de l'art.
Principe Actif, le mix des cultures.
No. je suis bientôt has-been. La terreur des castings. Je fais des concerts, s'il y a un catering avec dessert. Sinon c'est Jean-Pierre Bacri. Les batteries pleines, j'envoie deux ou trois flatteries. Et je me sers comme à la Sainte Catherine. Pas vu, pas pris, fais-moi une gâterie. Après je me sauve à la Justin Gatlin. Je suis en planque sur Tatooine. On a YouTube alors je l'entends ton autotune. Drag Queen. Ton rap casse pas trois pattes, un canard. T'éclipses et les nanars des frères Baldwin. À coup de pêche, crée une brèche dans le système. Je le fiste et je me lèche les babouines. Là où je crèche, on fait des tubes pour 15 wesh. Pour les autres, j'ai des tubes de vaseline.
F.S. trop F.O.T.I.F. J'aime autant être trop émotif, névrotique. Être autiste et porter des fautifs. Qu'être au fisc ou être à l'OTAN. Oh, gros plan, mais pas fat jokes. Bla, petit gars, respecte-toi, t'as pas de flow. Faut le temps, fitter des vers swag. C'est pas qu'une question technique. Oh non, c'est beaucoup de style. Des gros groove killers. Zomi qui s'exhume, old school kicker. Chauve-sourieur, vaudou rimeur. J'plante dans ta poupée avec beaucoup de vigueur. Mon flow pointe, tu sautes ou speaker. Aou, ma voix va dans l'aigu et je blow your speaker. Zomi qui sick, mon fournisseur. Trop lyriciste, au secours killer.
Oh, c'est le sick flow, c'est le sick flow. C'est le goutte à goutte et d'un goutte écoute. C'est le sick flow, c'est le sick flow. Si dope, qui trompe. J'adore ça quand tu m'appelles Big Pop, Deep Hope. Le s'il faut, s'il faut. Préciser l'espèce de secrète. C'est le diplôme,